ont décidé qu'ils ne pouvaient pas travailler dans la sérénité que nécessitait la vraie recherche scientifique, entre guillemets, et tout et tout. Et ils ont décidé de monter une conférence chez eux, tranquille, et évidemment sans mettre le mot sida dedans, de manière à affirmer de manière plus ou moins claire, ici c'est un endroit où on travaille et on réfléchit, et les activistes n'ont pas leur place. Et donc depuis, effectivement, on a toujours eu des places extrêmement limitées, et on a toujours eu, je dirais, on a toujours été surveillé de très près pour qu'on reste bien poli, bien propre sur nous quand on participe à cette conférence.
Ok, on avait senti un premier infléchissement dans le programme de la CREU il y a un an, oui. Dans l'édition de 2003, avec une légère ouverture sur les problématiques des pays en développement. Tu nous as dit que cette ouverture avait été très amplifiée en 2004. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, puis c'est plus que ça en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà l'année dernière, on avait été un peu surpris, on s'était dit, tiens, c'est marrant, pourtant une conférence aux États-Unis, d'habitude, ils ont l'habitude d'être très fermés sur les problèmes occidentaux, sur, je dirais, tout ce qui se fait dans les laboratoires pharmaceutiques et tout. Et là, l'année dernière, déjà, il y avait eu quand même beaucoup de choses sur l'Afrique et sur les pays en développement en général, sur l'accès au traitement au niveau mondial et tout. Enfin, il y avait eu pas mal de choses comme ça. C'est Bill Clinton qui, d'ailleurs, était le nom scientifique traditionnellement invité pour la session d'ouverture l'année dernière. Et cette année, c'est quelqu'un de beaucoup moins connu, puisque c'est un ancien ambassadeur américain qui est actuellement diplomate pour l'ONU SIDA en Afrique, mais qui effectivement est revenu principalement sur ce thème de l'accès au traitement dans le Sud. Et de la même manière qu'il y a quand même beaucoup dans la conférence, une grosse partie qui a traité essentiellement, enfin qui a traité des questions que tout le monde se pose sur comment ça se passe l'accès des traitements au Sud, c'est-à-dire pas, alors là il ne s'agit pas effectivement de régler le problème économique, c'est quand même une conférence scientifique, mais de savoir finalement, maintenant qu'on commence tout doucement à avoir un peu d'accès au traitement dans le Sud, comment ça se passe sur le plan clinique, médical, scientifique, enfin voilà quoi.
Ok, on fait un tour d'horizon des principales pas avancées ou découvertes, mais de ce qu'on ressort de la CREU en matière thérapeutique.
Tout à fait.
Alors, on commence par les résistances peut-être.
Ah, les résistances, ça c'était un gros sujet.
Tu peux redire ce que c'est exactement les résistances bien au sûr. Cas de l'infection.
Bien sûr. Les résistances, c'est un gros sujet. Alors, effectivement, un petit chapeau quand même pour dire que... Habituellement, quand on soigne une maladie, je sais pas, si on prend une angine, on prend un antibiotique, et puis ça soigne, au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien. Enfin, on est guéri. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans ce genre de cas-là, ça signifie tout simplement que, je dirais, comme j'aime bien le dire, on écrase les mouches au bartopilon. Je veux dire par là qu'on a un médicament qui a une puissance gigantesque par rapport à un virus ou une bactérie qui est rapidement mise à mal, si je puis dire. Dans le cas du VIH, c'est totalement différent parce que les médicaments qu'on a sont pas efficaces à 100%, ils sont efficaces en dessous, à 90, 92, 95%. Autrement dit, ce qu'on arrive à faire, je dirais, c'est contenir la maladie, mais pas plus. Et alors, évidemment, apparaissent des tas d'autres trucs autour, des tas de problèmes, des tas de difficultés qu'il faut essayer de vaincre. Et la question des résistances, qui est une question qui existe d'une manière générale dans les maladies infectieuses, existe aussi dans le sida. Et ça signifie simplement qu'à partir du moment où on n'arrive pas complètement à vaincre l'ennemi, si je puis dire, avec les médicaments qu'on a, eh ben, on arrive à sélectionner ceux qui résistent aux médicaments qu'on applique.
D'accord,
et c'est ceux-là qui finalement prennent le dessus.
Ok, d'accord. Donc en matière de résistance, très brièvement, parce que j'aimerais aussi qu'on parle de la co-infection, brièvement aussi, quoi de neuf ?
Au niveau de la co-infection, beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'on a eu les résultats finaux des grands essais qui ont été menés sur le traitement de l'hépatite C dans le cadre de la co-infection VIH-VHC, à savoir Apricot, ACTG A5071 et Ribavit, qui est un essai français. Donc des essais menés un petit peu partout dans le monde. Et c'est pas vraiment des résultats révolutionnaires parce qu'on s'attendait un petit peu à leurs résultats, mais c'est toujours intéressant d'avoir des données chiffrées et donc ça permet quand même d'avoir, s'appuyer un petit peu sur des bases solides. Ce qui est dommage dans la co-infection, c'est que pour l'instant, on a un peu tendance à stagner, c'est un peu comme dans le VIH d'ailleurs, à stagner sur les traitements existants et on attend vainement et avec beaucoup d'espérance des traitements nouveaux et à venir.
Et justement, les perspectives pour les 30% de ces repos qui sont co-infectés par le virus d'une ou de plusieurs hépatites, qu'est-ce que c'est ?
Ben, de toute façon, les co-infectés, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ils évoluent plus vite dans l'hépatite que les personnes qui ont uniquement une hépatite et qui ne sont pas infectées VIH. Et d'autre part, les traitements marchent moins bien. Et puis, par ailleurs, il ne faut jamais oublier, quand on parle de VHC, qu'il y a différents sous-types du VHC et que tous les sous-types ne répondent pas de la même manière. Autrement dit, tout le monde n'a pas les mêmes chances de s'en sortir.
Ok, je crois qu'on doit malheureusement déjà nous quitter.
Non, quitter. Je pense juste qu'on peut peut-être répondre à cette question sur les résistances. Alors, qu'est-ce qui a été dit là-bas ?
Sur les résistances, en fait, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre un peu ce qui se passe et dans quelle mesure on peut tenir compte de ces phénomènes de résistance pour améliorer nos stratégies de traitement. Et puis, par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui a été extrêmement important et qui concerne plutôt les pays en développement. Où, comme on le sait, effectivement, les traitements sont difficilement accessibles. Ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte que le traitement de la transmission mère-enfant au moment de l'accouchement principalement, qui est quasiment jusqu'à présent les seuls traitements antirétroviraux qui existaient dans les pays en voie de développement, pose problème quand on se contente de ça et quand on les applique à minima, parce qu'ils sont justement capables de générer des résistances aussi bien chez la femme qui accouche, que éventuellement chez son enfant, dans la mesure où son enfant à naître est contaminé par le virus. Et ça, c'est un énorme problème. Ça prouve simplement, s'il nous fallait encore une preuve, qu'on ne peut pas faire du traitement au rabais et que la meilleure solution, ça reste quand même d'avoir un excellent accès aux médicaments et de faire des transmissions, du traitement des transmissions mère-enfant qui soit de qualité, un petit peu comme ce qu'on fait chez nous, quoi.
Et ça passe évidemment par un accès généralisé au traitement et pas seulement pendant la durée de la grossesse ou de l'accouchement. Pour en savoir plus sur le feedback de la CROI, vous vous connectez sur le site d'ACTUP puisque Hugues a fait chaque jour un compte-rendu de la conférence. Voilà, merci Hugues.
Donc maintenant une pause musicale, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de ce compte-rendu.